était, qui s'est battu 20 ans, qui a jamais rien gagné. Le patron opportuniste, boursicote à Wall Street, se dit même socialiste, dans un petit village suisse, député débutant, honnête et pas content, car il ne comprend rien de sa mise en examen. Et toi, le petit ouvrier, qui se plaindra tout le temps de ne pas pouvoir acheter ce que tu veux chez Auchan. Aujourd'hui, il y a des prêts, facilité de paiement, 150 fois sans frais, à 55%, la 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 la.
Nous sépare aujourd'hui au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes d'auditeurs, vos cartes de soutien, toujours la même adresse, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h. Bon, on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Franck Delorieux. Bonjour Franck.
Bonjour.
D'accord. Et en cabine, il faut remercier Monique. À chaque fois, sans elle, rien n'est possible. Hein. Si elle ne veut pas nous entendre, elle coupe la voix, etc. Elle dit non, mais je la connais. Voilà. Alors, tous les deux, on a un petit problème d'amnésie. Il faut avouer les choses. On a fait une émission quand ? On ne sait pas quand.
C'était donc sur mon livre Roger Vaillant, Libertinage des classes. C'était il y a une vingtaine d'années.
Impossible. Tu es sûr de ça ?
Ah oui.
Ça me paraît énorme. Hein.
Ouh.
Ça me paraît énorme. C'est à chercher et à vérifier. Hein. À chercher et à vérifier.
Ou alors 15 ans, oui.
Un peu moins. Et puis j'ai retrouvé, c'est au temps des cerises, Franck Delorieux, les lettres françaises. Hein, c'est, voilà. Et ça, c'est pareil, il n'y a pas de date. C'est simplement dit dans la préface que l'art lui-même devrait m'assister et conduire ma main pour achever les traits que je viens d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison entre le jeu des corps et le jeu de l'écriture.
Oui, tout à fait.
Tu maintiens par...
J'assimile totalement les deux. Pour moi, c'est l'acte d'écrire est un acte érotique et l'acte érotique est poétique.
Et il y a une citation de toi qui conclut la préface. J'entremêlerai le plaisir, le bonheur, l'amour et l'écriture. Je ne vois pas d'autre raison de vivre. Je suis heureux. Tu maintiens ça malgré tout ce qui se passe en politique actuellement sur l'image du bonheur?
Est-ce qu'on peut être heureux dans la situation politique actuelle ? Individuellement, oui. Intimement, oui. Dans ma vie privée, oui. Même si, bon, je suis en deuil depuis un an de mon compagnon Jean Resta. Après, la situation politique ne donne pas franchement envie d'être heureux. Je crois que nous sommes dans une période de très, très violente régression.
De pré-fascisme.
Oui.
On peut le dire, quelque part.
Oui. Les fascistes font la loi maintenant. C'est eux qui ont choisi le gouvernement. C'est terrifiant. Et alors, la situation mondiale est aussi terrifiante.
Je dis le mot fasciste, ça me plaît pas ce que je viens de dire, parce qu'il faut faire très attention. Hein. Le franquisme n'est pas le fascisme, le stalinisme n'est pas le... etc. C'est peut-être une nouvelle configuration, justement, politique.
En tout cas, c'est l'extrême droite.
L'extrême droite, ça c'est plus juste.
Voilà, c'est la réaction.
Ça c'est beaucoup plus juste, oui. Donc nous, on va parler d'un livre chez Seguer, c'est L'amour entre hommes.
Dans la poésie française.
Dans la poésie française. Alors comme un abruti, j'ai cherché Oscar Wilde, en oubliant qu'il y avait un problème sur la nationalité.
Oui.
Alors pourquoi j'ai lu ce livre, c'est un livre qui est très très bien fait. Et pourquoi j'ai tenu aussi, outre le livre, on va en parler, à faire cette émission. Je te raconte une anecdote, elle est tellement vraie qu'on ne peut même pas la mettre en doute. À peu près lorsque j'ai reçu le livre, je marche sur un boulevard, il y a une femme un peu débraillée sur un banc qui me dit « Tu n'as pas 2 €. » Je lui dis « Eh ben non, je ne les avais pas. » Je lui dis « Non. » Elle me regarde, elle me dit « Sale juif. » Je fais 100 mètres, et l'histoire est entièrement vraie, je veux traverser la rue, il y a une espèce de type qui accélère, qui fait un boucan pas possible avec sa voiture, qui manque de m'écraser, je lui dis d'aller se faire foutre, il ouvre sa portière, il me dit « va donc sale pédé ». Et pour moi, la rue est très politique, pour toi aussi je suppose, et le langage est très politique, et d'être entre... Alors je suis ni juif ni pédé, je tiens à le dire, c'est comme ça. Et me faire traiter de juif et pédé en l'espace, c'est très parlant.
Oui, mais la parole de haine se libère, on le voit tous les jours. Les agressions, par exemple, homophobes, sont en hausse constante.
Il y a une dame qui avait conscience de tout ça, qui est morte, c'est Madeleine Riffaut.
Une très grande dame, une très grande résistante, une militante anticolonialiste, une poétesse de grand talent, célébrée par Éluard notamment. Et c'est Éluard qui a écrit à Aragon pour la faire rentrer à Ce Soir parce qu'elle n'avait pas de métier. C'est comme ça qu'elle est devenue journaliste. Et c'est une grande perte, parce que c'était une femme plus qu'honorable.
Et que sa résistance, elle l'a fait jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Il y a eu un épisode dans un hôpital, je crois que c'est à la Riboisière, on la met dans le couloir sur un brancard, elle continue à lutter alors qu'elle est quasiment aveugle. Hein.
Oui, mais elle a resté combattante jusqu'au bout, militante, formidable.
Donc, j'ai reçu L'amour entre hommes chez Seguers, dans la poésie française. Alors, tu me mets un petit mot, géant ce livre où la poésie est aussi politique. C'est un acte politique, cette anthologie.
Oui, c'est un acte militant. Je sais que, tout jeune homme, quand j'ai commencé à avoir des rapports avec des hommes, je sais que la lecture d'auteurs gays a été importante pour moi. Et j'ai récemment été reçu dans une librairie et le libraire me disait que lui aussi, quand il était jeune, il était sorti l'anthologie de La Rivière, qui est une anthologie de textes en prose du monde entier, en prose et en vers, et qu'il avait acheté, et qu'il s'était constitué comme ça une bibliothèque gay qui l'a aidé à se construire. Et j'espère que ce livre pourra servir à ça aussi.
Autre, ils vont tout savoir, hein. Autre, tu m'avais fait une petite signature pour il, où tu dis à géant cet éloge matérialiste. Alors, c'est un petit problème philosophique que après on descend dans l'anthologie juste après.
Hein. Oui.
J'ai toujours moi associé deux choses comme ça par prudence en disant je suis matérialiste et athée.
Oui.
Et c'est pas une redite. Non, et c'est de moins. Oui, vas-y. Ça...
Non, tout à fait. Il faut préciser. Le matérialiste et athée, je le suis aussi. Oui,
et c'est pas une. Oh, bah, c'est parfait. Et surtout par ces temps d'occulte et de complotisme, on a intérêt, puisque paraît-il que l'athéisme est en vogue actuellement, on a intérêt à dire qu'on est matérialiste et athée.
Oui, bien sûr. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi.
Eh ben, c'est parfait, on est sauvés. Donc, avant de passer à tout ça, oui, on va quand même se faire un plaisir. C'est Jean Genet qui est ressorti chez Gallimard, Elio Gabal.
Magnifique pièce de théâtre, vraiment, c'est extraordinaire. un inédit, inespéré, et on voit la... Enfin, c'est étonnant que Genet n'en ait rien fait, ne l'ait pas publié de son vivant, parce que c'est une pièce admirable. C'est
admirable.
Une des plus belles pièces de Genet.
Je me suis fait la même interrogation, comment s'est restée tue cette pièce-là pendant tant d'années, quoi. Mmh.
Et on voit cet autodidacte à quel point il était d'une culture très grande.
Et d'un sens.
Oui.
Voilà. C'est pas un grand mystère pour toi de voir ce garçon qui vient de l'assistance publique manier le français dans le... On va écouter un bout du condamné à mort pendant toute cette émission là, manier le français comme il le fait et en même temps d'avoir une science du théâtre.
Oui, et un art romanesque parfait. Il a renouvelé le genre romanesque, il a renouvelé le théâtre. Alors, ce qui m'intéresse chez lui, c'est justement cette langue assez classique, très lyrique. Et j'aime quand il dit que pour lui, écrire, c'est trahir. C'est donc trahir la classe bourgeoise, utiliser la langue de l'ennemi pour faire passer un autre message. Et ça, c'est très intéressant.
J'ai pas, c'est une parenthèse, j'ai pas grande sympathie pour Mélenchon. Et j'en ai d'autant plus moins que lorsqu'on lui demande quel est quasiment le type du grand écrivain pour lui, il répond d'Ormesson. Et je trouve que quelqu'un d'extrême gauche comme ça, qui ne fait pas l'effort d'aller chercher quelque chose, Genet ou quelque chose comme ça, de vraiment politique au niveau de la langue, c'est une catastrophe.
Oui. Je ne savais pas que Mélenchon aimait d'Ormesson, encore une raison pour moi de ne pas l'apprécier. Enfin, en même temps, je dois t'avouer, je n'ai jamais lu une ligne de d'Ormesson. Ça ne me viendrait pas à l'esprit.
Bon, je me suis trouvé dans un endroit, il y avait que ça à lire un jour, j'en ai lu quelques pages et c'est sans intérêt, quoi.
Et on ne comprend pas qu'il soit dans la Pléiade, enfin, c'est hallucinant.
Ouais.
C'est un écrivain de troisième catégorie.
Bien sûr, mais ça c'est grave, mais encore plus grave que quelqu'un d'extrême gauche qui se réclame de d'Ormesson, c'est grave.
Oui.
Voilà. Ce qu'on va faire, on va écouter Jean Genet.
Avec grand plaisir.
Avec Marc Augeret.
Oui.
C'est le nec plus ultra quand même. Hein.
Oui, c'est
et
magnifique.
Et puis on va plonger dans ce livre, L'amour entre hommes, édition Segers, une anthologie poétique. Merci Monique.
Oh la douceur du bagne, impossible et lointain, oh le ciel de la belle. Oh la mer et les palmes, les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes. Oh les cheveux tondus et les peaux de satin. Rêvons ensemble, amour. À quelque duramment grand comme l'univers, mais le corps taché d'ombre, il nous bouclera nu dans ses auberges sombres. Entre ses cuisses d'or, sur son ventre fumant, un archange pendant sur les bouquets d'œillets et de jasmin. Que porteront tremblant tes lumineuses mains sur son auguste flanc que ton baiser dérange.
Franck, magnifique, non? La réécoute, on s'en lasse pas?
Oui, la voix de Marc Augeret est vraiment formidable, d'une sensualité, d'une chaleur. il met vraiment, il magnifie le poème. C'est qui est un des plus grands poèmes de la langue française.
Ah oui, ça bien sûr, évident. Et comment il est sorti d'un tel être ?
Oui.
Hein, c'est le grand mystère. Donc, l'anthologie commence vers 14 ans 05, c'est la mort 05, oui. C'est la mort de Stage des Champs. Hein,
oui.
Voilà. Il faut avouer que le rapport de la société, de la justice, l'homosexualité, la littérature, ça s'est sérieusement amélioré. On n'est plus pendu ni brûlé parce qu'on est homosexuel.
Encore heureux.
D'accord. Mais par contre, là, on est d'accord. Toi, moi, on est d'accord. Tu rappelles, dans ton introduction, ce que déclarait Simone de Beauvoir.
Oui. J'ai plus la
citation. Non, je vais te le dire. Oui. Moi, il a dit mais il faut demeurer vigilant, déclarait Simone de Beauvoir, d'une crise politique, économique et religieuse, pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devez demeurer vigilant. C'est-à-dire que tout basculait du jour au lendemain.
Hein. Oui, oui. On le voit par exemple, l'avortement dans le monde qui régresse. Enfin, heureusement, il a été inscrit dans la Constitution en France. C'est un peu rassurant, mais il faut rester très très vigilant.
Mais quand on voit ce qui se passe en Hongrie, par exemple, Poutine, oui. Ce qui se passe pour les homosexuels, les minorités sexuelles en Russie, par exemple.
En Russie, en Hongrie, en Pologne, en Italie.
En Italie, bien sûr.
En Argentine, il y a une vraiment très grande régression dans le monde. Qui est en train de virer complètement réactionnaire. Enfin, c'est vraiment un sujet de très très grande inquiétude. Et en France, eh bien, on a le RN aux portes du pouvoir.
Alors il y a pire parce que j'ai chopé ça il y a quelques jours sur une télévision, le dénommé Éric Zemmour, qui n'est jamais venu sur Radio Libertaire.
Ah bon?
Jamais. On lui pose c'est sur les migrants, hein, c'est sur les migrants. Il est toujours avec les migrants, doivent retourner chez eux. Et le type qui l'interviewe lui dit mais il y en a qui viennent parce qu'ils sont homosexuels, et vous savez que l'homosexualité dans certains pays est punie de peine de mort. Et Zemmour ne se dégonfle pas, il dit oui, ils n'ont qu'à rester chez eux, c'est pas mon problème.
Oui, mais cet être est absolument abject, et il est de bout en bout. De bout en bout.
Oui, mais je veux dire qu'il va très loin, parce que je ne pense pas qu'il y a 10 ans auparavant, on aurait osé dire une chose pareille.
Oui, oui.
Tu vois, c'est. Voilà. Alors, on va peut-être légèrement être en désaccord. Il y a quelques années, je ne sais plus quand, mémoire encore avec des trous, j'avais fait une émission avec mon ami Patrick Schlinder, qui était un des fondateurs du Phare, qui est un écrivain qui a fait un livre sur Arthur Rimbaud, un sur Jean Genet et un sur Klausmann. C'est trois homosexuels. Mais on avait commencé la discussion comme ça. Je lui dis, mais tu n'as pas peur de que ce soit quelque chose comme du communautarisme, une forme de ghetto, de ghetto. Et c'était exactement à la même époque. Il y avait un tout petit théâtre à côté d'ici, là, qui était toujours désert. Et il y a eu une pièce homosexuelle. Quelqu'un a présenté sa pièce comme étant une pièce d'auteur homosexuel. Et brusquement, le théâtre a été bourré. Et tu dis quand même dans ton introduction là, ça peut apparaître comme un phénomène communautaire, cette anthologie.
Le communautarisme ne me gêne pas si c'est une réunion de gens qui défendent un intérêt commun. Voilà. Après, Aragon disait qu'il n'était pas un écrivain communiste, qu'il était écrivain et communiste. Je dirais que je suis pas un écrivain homosexuel, je suis écrivain et homosexuel.
Il y en a un qui est dans cette anthologie qui pareil, c'est Michel Journiac. Michel Journiac ne veut pas être présenté non plus comme homosexuel.
Non, non, non. Mais de toute façon, le terme homosexuel est déjà douteux. On sait qu'il a été créé à la fin du 19e siècle par un psychiatre hongrois pour qualifier des pervers sexuels. Donc il est connoté lourdement, ce mot. C'est pour ça que je préfère souvent gay ou même pédé pour le jeu de retournement de l'insulte.
On dirait les amours italiennes, comme on disait dans le temps, c'est très beau. Tiens, bon, petite parenthèse, Lully, c'est l'auteur de Clair de la Lune, non?
Ah, je ne sais pas.
Je pense au clair de la lune, mon ami Pierrot.
Aucune
c'est une chanson qui est absolument connotée.
Oui.
Bien sûr, qui est connotée. C'est comme Lorca avec sa Luna Luna. Lorca était homosexuel. La lune, c'est le derrière. On n'y peut rien. Enfin, c'est tout. Il y a toujours une connotation qui joue là-dessus. Michel Journiac, tu peux en dire deux mots puisqu'on y est.
Alors, Michel Journiac me semble être un artiste très important de ces 50 dernières années.
Tu l'as connu ?
Non, je ne l'ai pas connu. Non. Non, j'étais trop jeune. Alors, il a fait beaucoup de performances, notamment la plus célèbre, c'est Messe pour un corps, où il faisait communier avec des rondelles de boudin fait avec son propre sang. Il a joué beaucoup avec la psychanalyse, en se déguisant son père pour se prendre en photo ou en se déguisant sa mère pour se prendre en photo. Il était communiste, il a été membre du Parti communiste, ce qu'on ne sait pas souvent.
Ce qu'on sait encore moins, mais c'est pas sûr. Est-ce qu'il aurait été séminariste? Il aurait eu
Je crois, oui.
Moi aussi, ça vient de la religion, tout ça, oui.
Oui, d'où le jeu avec la messe, par exemple, avec le sacré.
Donc c'était l'époque des performances,
oui.
où des gens ont mis certains, parce qu'il y a eu un snobisme qui a été fait là-dessus, ont mis leur corps en péril.
Oui, Journiac est allé très loin, hein. Il s'est fait tatouer, mais il a aussi une œuvre plastique, enfin voilà, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est... le contrat qu'il faisait signer à des gens, comme quoi les gens lui laissaient leur squelette après leur mort pour qu'il devienne plastifié ou doré à la feuille. Avec Jean Rista, dans les lettres françaises, nous avions fait un petit dossier sur Michel Journiac et on avait mis en une, à l'époque les lettres françaises étaient insérées dans l'Humanité, maintenant c'est un journal indépendant, une œuvre de Journiac où sur un fond de drapeau tricolore, on voyait Marianne avec une énorme bite en érection.
C'était en quelle année, ça ?
Je sais plus. J'ai pas le sens des dates.
Non, mais je veux dire qu'avec la censure qu'il va y avoir dans l'air, la censure dans l'air, hein, ce qui s'est passé avec les gueules de Mahomet, alors qu'on n'avait jamais gueulé contre le Christ en état d'érection, la une de Charlie Hebdo, tout ça est vraiment en balance, quoi. Hein. On a commencé en disant que c'était un acte politique, un acte militant. Tu as bien séparé homosexuel, écrivain, etc. Ça se fait face dans la revue, là. Je crois dans l'anthologie. Je crois que Monterland est en face d'Aragon.
Oui.
Et la démarche politique de Monterland n'est pas très sympathique.
C'est une crapule.
Oui, voilà.
Oui, mais je n'ai pas mis que des auteurs que j'aimais.
D'accord.
Hein. Mais Monterland et Aragon étaient amis. Ils se sont connus au lycée. On dit qu'ils auraient joué ensemble à des jeux.
D'accord.
Voilà. Et ils se sont fâchés parce que Aragon lui a demandé de rentrer dans la résistance, ce qui paraissait logique. Et comme Monterland a toujours été un lâche, il a refusé.
Oui, mais il y a quand même des...
Et il a... Bon, c'est pas Drieux ou Brasillac, mais il y a des choses très, très douteuses ces livres.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà, un rapport de fascination pour l'Allemagne.
Et pour la Croix gammée, il y a tout un texte, qui s'appelle le solstice de je sais pas quoi.
Hein. Solstice de juin.
De juin. Il y a une apologie de la Croix gammée, hein.
Oui.
La Croix gammée. On va revenir vite fait sur Genet. La démarche de Genet politiquement est très sympathique.
Ah oui, admirable.
Vas-y, tu connais ça mieux que moi. Il commence d'un mauvais côté, hein. Il a une sympathie pour les uniformes. Il a une sympathie pour tout ça, hein.
Oui. Mais que ce soit. Il y a un livre très intéressant de lui, c'est L'ennemi déclaré.
Je connais pas.
Oui, c'est un recueil de textes politiques. Et puis, il y a le magnifique Captif amoureux.
Captif amoureux.
Sur la Palestine.
Sur Sabra et Shatila.
Voilà.
Oui, ça...
Et son engagement auprès des Black Panthers aussi. Enfin, il avait, il ne pouvait pas obtenir de visa pour aller aux États-Unis. Voleur, homosexuel, communiste ou crypto-communiste. Donc, il ne pouvait pas rentrer. Il est rentré clandestinement pour soutenir les Black Panthers.
Il y a un très beau livre qui est paru une quinzaine d'années. C'est ce qui est des écrivains. Il y a Beckett, il y a Genet, il y a des gens comme ça qui vont à Berlin lors de la montée du fascisme. Imagine. Et voir ce qu'ils ont vu ou pas vu. Il y en a qui ont absolument rien vu, d'autres à qui ça plaisait bien, etc. Et notre Genet, il y va, il est décidé à voler. C'est un voleur. Et il s'aperçoit qu'à Berlin, quand il arrive, tout le monde vole. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se prostitue. c'est extraordinaire, quand même.
Oui, oui.
Mais j'arrive à comprendre que des gens soient gênés de voir que dans une anthologie qu'Aragon puisse côtoyer Montherlant. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un problème philosophique qui était intéressant. C'était, il y avait une grande manifestation même il y a plus longtemps du phare ou une manifestation homosexuelle, une chose comme ça. Et il y avait une organisation de CRS et de flics homosexuels qui avait voulu se joindre à la manifestation. Et ça avait fait tout un pataquès. Et je veux dire, mais est-ce que cette sexualité peut faire oublier des choses comme ça?
C'est-à-dire que moi, mon livre ne peut pas être exhaustif. Hein. J'ai découvert depuis qu'il y a des auteurs qui manquent. Mais j'ai tenu à mettre Montherlant parce que lui qui était lâche, qui s'est tellement caché de sa vraie sexualité, qui en plus était pédophile, c'est assez abject. Mais je pense qu'il fallait qu'il y soit pour l'histoire. Après, le poème que je cite n'est pas inoubliable. Hein.
Alors voilà, dans cette anthologie, il y a des choses remarquables. Il y a des choses qui sont beaucoup moins, quoi.
Oui, je pense à Delsoir de Fersen.
Oui, c'est pas
bon.
Oui.
C'est même assez kitsch. Mais comme il est l'auteur de la première revue homosexuelle Academos, il fallait qu'il soit dans le livre.
On va se faire plaisir.
Oui.
Avant de côté de la musique, parce qu'il y en a effectivement, sur le bon ou le mauvais, sur le bon goût ou le mauvais goût, on va laisser les auditeurs, voilà, c'est Laurent Taillade.
Oui, magnifique.
Magnifique, Laurent Taillade.
Oui, oui.
Alors, je me suis écorché pour l'amour d'une bite. Je me suis écorché contre un garçon boucher qui avait un gros morceau, et moi j'étais puceau. Sa pine sentait bon, une odeur de fromage, sa pine sentait bon, on eût dit un bonbon. C'est pourquoi je bandais comme plusieurs baudets. Au premier coup portant, il me l'a foutu dans le mille. Au premier coup portant, c'en était épatant. Puis il a tant poussé que je suis défoncé. Depuis cet accident, je perds tous mes légumes. Depuis cet accident, on me trouve emmerdant, et j'emploie mon pognon à me soigner de troufignon. Ainsi la graisse d'ours, l'iode et la vaseline, ainsi la graisse d'ours couronne mes amours, car pour en vivre en beauté, je me vis en papa huté, jeune homme au beau cul, qu'aimer les chibres énormes, jeune homme au beau cul, soyez-en convaincus, rien ne fait tant mal qu'un membre de cheval.
oui, c'est très joyeux, c'est très drôle. Ouais, ouais.
Et puis quel personnage Taillade aussi.
Oui,
hein,
oui, oui,
hein,
oui,
voilà,
oui.
Qui a quand même soutenu les attentats anarchistes, qui s'est retrouvé borgne. Sa fameuse sorte, ici au restaurant Foyot, je crois, il y a une bombe qui éclate, il est amputé. Il n'y a pas d'ambulancier, et il dit qu'on aille me chercher l'éléphant du jardin des plantes.
Voilà. Oui, grand personnage, oui. Je connaissais pas bien quand j'ai commencé à travailler pour cette anthologie, et ça a été une découverte réjouissante.
On va écouter un peu de Genet, et puis on va poursuivre le voyage.
Avec grand plaisir.
Tristesse dans ma bouche, amertume gonflant mon pauvre cœur, mes amours parfumés, adieu, vont s'en aller. Adieu, couilles aimées. Oh, sur ma voix coupée, adieu, chibre insolent. Gamin, ne chantez pas. Posez votre air d'apache. Soyez la jeune fille au pur cours adieu. Ou si tu n'as de peur, l'enfant mélodieux mort en moi, bien avant que me tranche la hache. Enfant d'honneur si beau, couronné de lilas, penche-toi sur mon lit. Laisse ma queue qui monte frapper ta joue dorée. Écoute, il te raconte ton amant l'assassin, sa geste en mille éclats. Il chante qu'il avait ton corps et ton visage, ton cœur que n'ouvriront jamais les éperons d'un cavalier massif. Avoir tes genoux ronds, ton cou frais, ta main douce. Ô môme, avoir ton âge.
Ah, oh, Monique, mon cœur bat quand je vous vois en cabine, Monique, au 01 43 71 89 40. Et ben toujours avec Franck Delorieux, L'amour entre hommes dans la poésie française, aux éditions Segers. Il n'y a pas Oscar Wilde, je tiens à vous le dire, monsieur Delorieux. Hein. Il n'y a pas Oscar Wilde, je tiens à vous le dire.
Ben oui, mais il n'écrivait pas en français.
Alors. Oui, c'est bien le problème, c'est moi. Je l'ai tellement, il est tellement international, son humour est, est tellement à droite à, comme ça, en, à Paris, c'est pas parisien, il y a
oui,
été parisien, et sa relation avec Gide, sa relation avec tout ça, quoi. Bon, alors, il s'est trouvé, j'ai raconté ça à Alain Ruscio lorsqu'il est venu ici, pour son livre aux éditions Manifeste, Louis Arago et le colonialisme, c'est ça?
Voilà.
D'accord. Je lui disais, est-ce que tu as rencontré Arago? Il me dit non. Et je lui dis, moi, je l'ai rencontré une fois. Et je lui raconte. Je lui raconte, j'étais avec mon ami Jimmy Gladiator, c'était au théâtre Sarah Bernard. Il descend, on voit un type arriver avec des cheveux pas possibles, blancs, il avait évité toutes les couleurs, des joues rouges, un costume, des pompes bicolores. Il était entouré par des gitons. Il avait un giton devant, un giton derrière, un giton sur le côté, etc. Et mon ami Gladiator, qui était très visuel, lui dit, dites donc, Louis Arago, j'ai une question à vous poser. Alors, les gitons aussi ont commencé à faire un barrage, comme ça. Et Louis Arago, très calme, dit, qu'est-ce que vous voulez? Et Gladiator, il a posé une question. Il a dit, est-ce que c'est vrai qu'en telle année, vous avez dit ça à un tel, etc. Et donc, c'était longtemps dans le temps. Hein. Et Arago, très calme. Il lui répond, non, c'est faux. Oui, j'ai effectivement eu cette discussion. C'était pas comme ça. Ça s'est passé tel jour, à telle heure et par téléphone. Mémoire superbe.
Oui.
Voilà. Donc, c'est Louis Arago qu'on a vu dans la... Mort d'amour pour Elsa, là. Il a été très rapide à se reconvertir avec des jeunes hommes.
Alors, il ne s'est pas reconverti. Il a toujours eu des relations avec des hommes. Hein. On sait qu'il a eu une liaison avec Drieu La Rochelle avant que
Drieu... C'est officiel, ça ?
Oui, avant que Drieu devienne évidemment fasciste, pro-nazi. Donc là, c'était plus possible. Elsa, dans quel roman ? Le Cheval Blanc, je crois, parle d'une liaison qu'Arago a eue avec un homme pendant qu'il était en couple avec Elsa. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un très beau vers d'Arago, « mon Dieu, cela ne s'éteint pas ». Après la mort d'Elsa, il avait toujours besoin d'aimer. Et il a considéré qu'après Elsa, il ne pourrait plus jamais aimer une autre femme. Donc, il s'est affiché avec des hommes, sans le moindre gêne. Ça fait un peu... Dans le Parti communiste, voilà, ça fait du bruit.
Ça, faut le dire. C'est quand même un parti, au départ, qui est sérieusement homophobe.
Oui, bien sûr. Bah, c'est le fameux mot, quand des militants du Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare, viennent perturber un meeting de Duclos. Duclos leur répond, nous sommes un parti sain ici, si vous êtes homosexuel, allez vous faire soigner.
Déjà. Bon,
heureusement, cela a énormément évolué. La parution en 1977 de l'Aude pour hâter l'avenue du printemps de Jean Rista, dédié à mes camarades du PCF, où il y a ce vers, camarade ne met pas l'amour en prison, a beaucoup fait bouger les choses.
La femme de Thorez, Jeannette
Vermeersch, oui.
Qui était contre l'avortement.
Le fils qu'ils ont eu, un de leurs fils, Pierre, qui était homosexuel, s'est suicidé.
C'est ça.
Jeannette Vermeersch. Il y a une émission de télé qui avait duré 6 heures, dit et non dit d'Aragon, et Aragon démolit Jeannette Vermeers. Non, c'était pas une femme. Elle était sur la question des mœurs complètement réactionnaire.
J'ai fait une émission, et encore là, c'est encore exercice d'amnésie, avec un journaliste de l'Humanité qui a écrit un livre assez court sur Marguerite Duras. Pas sur Marguerite Duras, mais qu'est-ce qui s'est passé pour la cellule de la rue Saint-Benoît après la guerre. Mmh. Duras allait dans picolait, elle allait dans les boîtes de nuit, elle allait, etc. Et elle est passée en procès de la part de ses camarades du Parti communiste, elle a été exclue. Donc le PC, et c'est fini, j'espère que c'est fini, a travaillé une moralité pendant très longtemps.
Oui, mais maintenant, ça a bien changé. Au moment du Pax, le parti a proposé quelque chose de beaucoup plus avancé que ce qui a été voté. Le parti a milité très activement pour le mariage pour tous. Soutient le droit des transsexuels. Enfin, ce parti qui vient de loin, comme disait Aragon, heureusement maintenant est très libre. Il a même eu au siège du Parti communiste une exposition de Tom de Pékin.
On pourrait dire qu'il était on pourrait dire qu'il était homophobe, ce parti, mais il était aussi quelque part antisémite.
Non. Jamais.
Ça, c'était responsabilité. Non, jamais.
Jamais.
Parce que moi, je viens de ce cœur, de ce cœur. Oui.
Je ne dis pas qu'il pouvait y avoir des membres du Parti communiste qui étaient personnellement antisémites, mais le parti en lui-même n'a jamais été antisémite.
D'accord. Daniel Guérin, tu vois à peu près qui est Daniel Guérin ?
Oui, bien sûr.
D'accord. C'est un militant d'extrême gauche, homosexuel, qui va avoir des positions libertaires.
Oui.
Qui va écrire ni Dieu ni un livre, qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, je crois, et qui n'a pas été tendre du tout par Aragon. Tu te rappelles ce qu'il a dit sur Aragon ?
Oui.
Alors là, on s'étonnera de lire les propos qu'il tint un an après sa mort sur Aragon, arrimé à l'hétérosexualité comme au stalinisme par Elsa, et qui devait se protéger d'un autre malfaisant sectarisme, celui du Parti communiste. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous présente Elsa comme un rempart, quoi.
Ce qu'elle n'était pas. D'ailleurs, faut pas oublier que Elsa Triolet n'a jamais été membre du Parti communiste, absolument jamais. Et que le premier article en France sur Solzhenitsyn, c'est un article d'Elsa Triolet. Donc,
ça t'inspire l'enquête sur la sexualité des surréalismes ? Des surréalistes, pardon.
Alors, c'est très intéressant. Il n'y a que deux intervenants qui défendent le droit des homosexuels, c'est Aragon et Queneau.
Et Crevel n'y participe pas ?
Je ne crois pas.
D'accord. Pourtant, Crevel est un membre incontournable de l'histoire du surréalisme.
Bien sûr. Et on voit toute l'homophobie dans les rêves bretons.
C'est intenable. Ce qu'il raconte, c'est intenable.
Oui. C'est sectaire, c'est violent.
C'est viscéral. Je pense que c'est viscéral.
Oui. Alors que quand on revoit la première rencontre entre Breton et Aragon, c'est une scène de coup de foudre.
Oui. Il y a une histoire d'amour, histoire d'amour entre les deux.
Oui. Bien sûr. Mais dans les années 60, il y avait dans une galerie une exposition surréaliste dont s'occupait André Breton. Et devait exposer Brian Gysin. Et quand Breton a appris que Gysin était homo, il a fait retirer les œuvres. Ça en dit long, hein.
Années 60, c'est ?
Années 60, oui.
Et pourtant, il y a eu des homos dans le mouvement surréaliste.
Oui, Aragon, Crevel.
Crevel surtout, incontournable.
Magnifique écrivain.
Qui meurt à 34 ans, un tuberculeux, il traîne de sanatorium en sanatorium.
Oui, il se suicide.
Il essayait d'arranger les choses entre les communistes et les surréalistes. Mmh. Ah oui, c'était un destin extraordinaire.
Oui.
Et ça, c'est la grande contradiction. Je ne sais pas si Breton est revenu sur ses dires.
Non.
Ça, j'en sais fichtrement pas.
Pas à ma connaissance. Voilà.
Par contre, alors, Tu as réussi dans cette anthologie, attirée, je veux dire, par la queue, j'ai envie de te dire, à nous glisser Jacques Prévert.
Oui.
Qu'est-ce qui vient foutre là-dedans, Jaco ?
Alors, l'histoire est amusante. Je me suis servi d'un site, où la référence est dans le livre, qui recensait des poèmes gays. Et je vois ce poème de Prévert sans aucune explication. Bon, mais moi, tel que je le lis, je ne vois pas en quoi c'est homosexuel, puisque le « je » n'est pas identifié. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un, c'est le matin, qui regarde une personne « il », en train de faire son café, de partir, et il le quitte, en fait. Et voilà, et le « je » pleure. Et puis, en faisant des recherches, je suis tombé sur une lettre de Prévert à un curé. Il faudrait la lire parce qu'elle est extraordinaire.
Un peu longue à lire. Malheureusement, elle est un peu longue.
Juste un petit bout.
Attends, vas-y. Raconte et je vais la retrouver.
Et en fait, le prêtre avait dans son bulletin paroissial publié le poème comme étant un poème hétérosexuel. Et Prévert écrit à ce curé.
Monsieur, j'aimerais savoir de quel droit divin ou autre vous vous êtes permis dans votre bulletin paroissial Le Messager de reproduire en changeant le titre afin de donner le change un texte signé de moi et paru ailleurs depuis fort longtemps. En administrant ainsi typographiquement le sacrement du mariage à deux acres d'encre de papier et comment pourriez-vous le savoir ? Peut-être en même temps de présence réelle de chair et de sang, n'avez-vous pas agi avec une inconcevable légèreté ? Qui vous dit que vous n'avez pas imprudemment travesti deux innocents et charmants homosexuels en victimes du devoir conjugal ? Si vous vouliez vous donner la peine de relire attentivement ce texte, vous vous trouveriez dans l'obligation de reconnaître que rien ne vous permet de rejeter cette hasardeuse hypothèse. Le temps passé, bien sûr, mais la soudaine importance des problèmes sexuels et matrimoniaux dans les tout récents débats à Rome des pères conciliaires me permet d'envisager que vous avez peut-être été inconsciemment guidé par le divin radar que les incroyants appellent encore chance ou hasard et que vous avez peut-être posé la première pierre théologiale d'une science nouvelle, l'homo partout, the genèse.
C'est magnifique.
Alors, jetant une lueur neuve et nécessaire sur le transcendant mystère de la descendance d'Adam et Ève, vos premiers parents. Ainsi, sans remonter à l'épiphénomène de la multiplication des pains, nous pourrions peut-être bientôt, grâce à cette science, avoir d'autres lueurs et même d'autres lumières sur d'autres mystères. Alors, la sainte utérinité, de même que l'immortelle contraception, nous apparaîtrait plus claire sans rien perdre toutefois de leur mystère. Je termine par quelques phrases de politesse que j'ai le tact comme le plaisir de garder secrète. Bien tourné, hein ?
Oui, c'est magnifique. Voilà. Oui, et le poème est très beau, il est très, très émouvant. Et j'étais content de mettre Prévert aussi dans cette anthologie. Ça fait partie des surprises, comme Mauriac.
Oui, mais bon, oui, mais Mauriac, c'est pas Monterland, hein.
Non, je
veux dire, c'est pas Monterland.
Oui, mais on s'attendait pas à des poèmes homo de la part de Mauriac, c'est ça que je voulais
dire. Mais, alors, où je ne suis pas d'accord du tout, je trouve que, alors, je réitère, je suis tellement content que je réitère, c'est tirer le diable par la queue. Où vous avez trouvé là, dans ce poème de Prévert, je vais le faire rapidement, une notation homosexuelle, déjeuner du matin, il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait avec la petite cuillère, il a tourné, il a bu le café au lait, il a reposé la tasse sans me parler, il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder, il s'est levé, il a mis son chapeau sur la tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait et il est parti sous la pluie sans une parole, sans me regarder et moi j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Qu'est-ce qu'il y a d'homosexuel dedans ?
Eh ben, c'est ce qu'en dit Prévert. Moi, je ne surinterprète pas les textes. Hein. Je ne vois pas des homosexuels partout. Oui. Mais puisque Prévert dit à ce comte curé que c'est sans doute un couple homo, voilà, j'ai l'imprimature de Prévert, si je puis dire.
D'accord. Mais on est d'accord qu'il n'y a rien.
Mais sinon, je ne l'aurais pas pris. D'accord. Si je n'étais pas tombé sur cette lettre de Prévert, je ne l'aurais pas pris.
D'accord. Très bien. On est absolument d'accord. Monique, ne rêvez pas comme ça loin de moi, merci.
Voler, voler, ton ciel éclaboussé de sang et faire un seul chef-d'œuvre à avec les morts cueillis. Ça et là dans les prés, les morts éblouis. De préparer sa mort, son ciel adolescent. Cigarette, les ombres du tabac, du bagne et des marins. Visite ma cellule où me roulaient mes trains. Le spectre d'un tueur à la lourde braguette.
Il me restait 20 secondes quand même au 01 43 71 89 40. Et bien toujours avec Franck Delorieux, L'amour entre hommes dans la poésie française. Ça vient de sortir ?
Oui.
D'accord. Il est très bien foutu ce livre. Hein.
Alors je dois remercier les éditions Segers et particulièrement Anne Dieuzart, la directrice artistique, et Guillaume Périlou, l'attaché de presse, qui m'ont fait un très bel ouvrage. Illustré par Thomas Castro-Neves,
que tu connais ?
Je connaissais pas, non, que j'ai découvert, voilà, c'est Gers qui me l'a proposé. Ça m'a tout de suite plu, les illustrations sont très belles, avec un bleu clin magnifique, et je suis heureux de l'objet.
C'est très drôle, cette histoire de bleu clin. Mm. On sait que c'est du bleu clin. C'est vrai, c'est pas un... Oui, on sait que c'est du bleu clin, c'est rentré dans une expression.
Oui, bien sûr, oui. Mais c'est même déposé, je crois.
Ah, c'est déposé, parce que j'étais absolument pas au courant de que ce soit déposé. On fait un voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'on part très loin, on part sur le petit Parnasse satirique.
Oui.
Hein, on arrive dans nos jours.
Ben, le plus récent est un jeune auteur qui s'appelle Arthur Dreyfus, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Je vous conseille à tous de lire son dernier livre, La Troisième Main, qui est un petit chef-d'œuvre, et de lire aussi Histoire de ma sexualité et Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui. Il a une très belle plume, il a beaucoup, beaucoup de talent.
Est-ce que j'ai vu André Gide dedans ?
Non, il n'y a pas de poème homo d'André Gide.
Les nourritures, Nathanaël, ne te retourne pas. Le poème d'amour, c'est un poème d'amour.
Oui, mais est-ce que c'est de la poésie ?
Les nourritures, nourriture.
Si. Oui.
Voilà. Mais je crois que tu n'as pas grande sympathie politique pour André Gide. Non, ça veut tout dire. Hein.
J'ai lu quelques livres de lui, ça m'a pas.
Corridon est un texte.
Oui, c'est un livre important.
Important.
Mais Gide a fait des choses importantes, d'accord. Mais il n'est pas vraiment dans mon univers littéraire.
Ni politique. Je vais te dire pourquoi. Parce que là c'est la seule mémoire que j'ai par rapport à toi. Alors, lorsqu'on s'est vu, il y a je ne sais plus quand. On a échangé quelques propos dans le couloir et tu m'as dit une phrase, je ne l'ai pas en tête, hein, pas très sympathique sur Gide.
Oh, je m'en souviens.
Non, en me montrant, en me disant que c'était pas un ardent, c'était quand même quelqu'un de très mou, etc. Mm. Voilà, c'est pour ça. Et j'ai cherché Gide et oui, moi je pense que oui, la nourriture c'est bien hein, quand même. Hein.
On fera une réédition.
on va faire une réédition. Donc, on passe par les plus grandes. On va passer par un, là. C'est Guillaume Apollinaire.
Oui.
Le nombre de gens que je connais qui se sont jamais aperçus, qui n'ont jamais voulu s'apercevoir, je ne sais pas, que le Mal-aimé était un texte homosexuel.
Clairement. Enfin, je veux dire, c'est on ne peut plus clair.
Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre. Oui. Je suis vu ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. On ne peut pas être plus clair.
Oui, oui, c'est limpide. Ouais. Enfin, alors, Marie Laurencin raconte qu'Apollinaire aurait eu des relations avec des hommes. Et dans son roman « Les 11 000 verges », il y a deux scènes clairement entre hommes, de sexe entre hommes.
Tu n'as jamais remarqué que des gens n'ont pas voulu le dire ou pas voulu s'en apercevoir de ça ?
Oui, 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 oui. Il y a une cécité qui n'est peut-être pas forcément mal intentionnée, mais un refus de voir.
Est-ce que tu conseilles... Bon, on passe par les deux... écoute-moi bien, par les deux PD de Chuck, c'est Verlaine.
Oui.
Ah, lui, il y va. Et Arthur Rimbaud.
Bien sûr.
Hein, et Arthur Rimbaud, hein. Il y en a un qui va exceller dans le mystère, dans la littérature sur le sujet, ça va être Rimbaud, c'est la Vierge folle. Mm-hmm. Et l'autre qui va à la grosse machine, hein.
Ah oui, 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 les poèmes érotiques de Verlaine sont très, très crus, hein.
Ton cul à cheval sur mes cuisses les pénètre de son doux poids pendant que s'ébat mon lourd doigt au fin que tu te réjouisses. Il va vraiment, j'ai envie de dire, au décapsuleur.
Voilà. Oui, oui, mais c'est dans le recueil Ombresse qui est fait pendant avec le recueil Femme où les poèmes sont très crus, très très crus. Même un peu trash parfois pour certains, hein, oui, oui. Mais ce sont des poèmes magnifiques, hein, magnifiques.
Mais quelle histoire entre les deux.
Oui, oui,
déjà, quelle histoire. Hein, oui, oui. Entre ce sale gosse Rimbaud, sale gosse absolu, et ce dépravé. Hein, il est marié, il a un gosse, il passe sa femme, il picole comme un trou, il n'a pas que Rimbaud, il a les Tinois, il a tout ça, il y a toute une vie homosexuelle derrière. Hein,
voilà. Oui, 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 c'est... Mais j'aime, alors littérairement, j'aime les deux tout autant.
Je suppose que tu fréquentes la place du colonel Fabien.
Oui.
Je sais, je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi je m'en doutais. Et tu sais que c'est la place combat, il y avait des combats de chiens.
Ah non.
Et notre Verlaine venait voir les combats de chiens avec son giton, son minet de l'époque, le jeune Lettinois.
Ah oui.
Ouais, c'était là-bas.
Ah tiens.
Voilà. Alors, avant que... je vais quand même... Il y a une chose, il y en a une. Là, je vais me faire plaisir si jamais je le retrouve, parce que... Ouais, je l'ai. Je l'ai, c'est bon. Là, je me fais énormément plaisir. Et puis après, on va remonter un peu dans le temps. On va voir comment tu as travaillé, etc. Hein? Et tu diras, tiens. Sonnet masculin. Les rideaux, tout souillés, des morves d'un branlé. Enveloppaient le lit. Un bidet rempli d'eau attendait. Le vieillard rentra, mit son cadeau, 5 francs, dans une coupe de zinc, et l'enculé, tournant le dos, porta à ses jumelles rondeurs. Dame Jeanne d'amour, au boucher du Michet, à grand l'aide de suif, il fut vite fiché dans cette cave en chair où fument les odeurs de salpêtre et de bran. Ce dard sautillait et perdu dans ses doigts. Après un long effort, il entra jusqu'au ventre en ce trou qui bâillait, et dans l'anus embroché, sonna son doux flic-flac. « C'est bon !» dit petit homme. « Ah oui, va, va plus fort, ah, reste assez, laisse ouf !» Et l'entendit « clac !» Tu vois ce que c'est ?
Eh oui, c'est de Huysmans, qu'on n'attendait pas forcément plus dans cette anthologie.
Voilà. Faut dire à peu près qui Huysmans, c'est...
Huysmans, c'est l'auteur réaliste, naturaliste,
d'À rebours,
et l'histoire d'un dandy qui se retire du monde.
Il y a toujours un sens religieux chez...
Oui.
On n'est pas dans la matière, on est dans une espèce d'occulte spirituel chez Huysmans.
Oui, oui, hein? Oui, comme dans le livre sur l'occultisme là-bas.
Là-bas, bien sûr.
Voilà.
Ouais. Comment tu as procédé pour faire cette anthologie de...
Alors, bon, il y a...
Qu'est-ce qui t'a pris, surtout ? Quelle mouche t'a pris de faire ça ?
J'aime la poésie, oui, j'aime les hommes, donc associer les deux.
Ça n'avait jamais été fait ?
Non, 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 jamais. Il y a juste une anthologie de La Rivière mais c'est du monde entier, poèmes et prose. Mais ce livre-là, non, ça n'a jamais été fait.
Alors, comment tu as procédé? Parce que je suppose, moi, j'ai des noms, j'ai noté des noms. Il y a des gens que j'avais jamais entendu parler, dont j'avais jamais entendu parler. Hein, le dénommé Chausson, tu connaissais le dénommé Chausson?
Non. Oui. Aussi, parce qu'il y a un livre qui m'a été très précieux, une anthologie de poèmes érotiques libertins du XVIIe siècle. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Bon, il y avait des noms évidents hein, qui s'imposaient. Genet, Cocteau. Alors, sur Cocteau, je suis un peu triste parce que les héritiers ont refusé que je publie des poèmes érotiques. Alors qu'ils sont très, très, très diffusés. Enfin, ils ne sont pas, pas cachés. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas voulu.
Tu vois qui est Clovis Trouille?
Oui.
Peintre.
Oui.
À l'époque, les héritiers ne voulaient pas qu'on reproduise les tableaux de Clovis Trouille. Alors, ils sont quasiment tous dans le même sens. Il faut se méfier des héritiers, quoi. C'est terrifiant. Quel droit ils ont. Oui. Donc, le nommé Chausson. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu as écrit.
Alors, pas dans le détail, mais tu vas me rafraîchir la mémoire.
Le 16 août 1661, Jacques Chausson et Jacques Paulmy sont arrêtés pour tentative de viol sur le jeune noble Octave de Vallon, âgé de 17 ans. On note cependant, écrit Maurice Levert dans Le Bûcher de Sodome, que la sodomie ne constitue pas un chef d'accusation suffisant pour justifier le bûcher. Il faut des circonstances aggravantes, en l'occurrence des marques d'irreligion. Voilà, d'irreligion, voilà. L'acte d'accusation déclare en effet Chausson et Paulmier bien et dûment convaincus d'avoir dit et proféré des blasphèmes et impiétés mentionnées au procès. Et en outre, d'avoir commis et fait commettre le crime de sodomie et péché contre nature. Maurice Levert écrit encore le 25 novembre 61, Chausson et Paulmier, dit Fabry, étaient condamnés à avoir la langue coupée et leur corps brûlé vif. La sentence fut confirmée par le Parlement le 29 décembre et l'arrêt exécuté le jour même sans rétendum, c'est-à-dire sans étranglement préalable au poteau.
C'est horrible. C'est horrible.
Voilà. Non, je connaissais pas du tout, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils risquaient leur vie, quoi.
Oui.
C'est pour venir à Zemmour. À Zemmour, c'est exactement la même chose.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, mais quand il y a eu le vote du Pax, il y avait des manifestations homophobes avec des slogans comme les homosexuels au bûcher.
Bien sûr. Oui.
Oui.
Le retour du... Je suis tombé dans le RER le jour où il y avait le mariage pour tous, c'est-à-dire toute la réaction qui est le drapeau blanc. C'était très inquiétant. C'était très inquiétant. Il y a 10 ans de ça, à peu près, 10 ans de ça,
oui.
On sentait que ça montait, cette morale montait. Quoi.
Et ils sont au gouvernement maintenant.
Ils sont au gouvernement.
Retailleau, qui est un sinistre individu, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui avait même... Il y a quand même en France, des députés qui ont voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Mmh. On en est encore là. Alors que c'est une chose d'une barbarie inouïe.
Donc comment tu as procédé pour...
Alors, bon, il y a les noms évidents.
Tu connaissais les contemporains, voilà, d'accord.
Théophile de Viau, c'était évident, voilà. Et puis, donc, il y a cette anthologie. Il y a deux sites qui sont assez bien faits, qui m'ont permis de découvrir des choses. Et puis après, j'ai été aidé par mon ami René Tsekati, qui m'a conseillé quelques auteurs que je ne connaissais pas. Et alors, il y a des maisons d'édition où j'ai trouvé beaucoup de choses, comme les Kayage Kitschkamp, qui sont une très belle maison d'édition. Et puis après, c'est comme un jeu de pistes, c'est-à-dire que on tombe sur un et puis ça renvoie à un autre. Je me suis amusé aussi à le faire. Oui, comme j'aime beaucoup la devise des humanistes de la Renaissance, sérieux ludere, jouer sérieusement.
Oh, vous avez lu Roger Vaillant aussi, Glorieux, donc c'est à peu près Vaillant, ça. C'est drôle de jeu, hein. C'est drôle de jeu. Donc vous lisez ça, vous découvrez. Alors est-ce que lorsque quelqu'un est extrêmement sympathique ou qu'il a mis sa vie en péril, il a été courageux, mais son texte est mauvais, ou médiocre. Est-ce que vous le publiez ou pas ? Est-ce que tu le publies ou pas ?
Oui, bien sûr. Oui, pour des raisons historiques. C'est le cas d'Aiswald Fersen, qui n'est pas un bon poète, mais qui a son importance dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai casé aussi un écrivain que je trouve très mauvais, c'est Roger Perfitte, un homme détestable.
Ne retournez pas le couteau dans la peau, dans la plaie, parce que j'ai remarqué qu'il y avait Perfitte, oui.
Oui, mais il a compté, il a été un des créateurs d'Arcadie, donc il a compté dans l'histoire de l'homosexualité. Après, c'est pas pour... De toute façon, j'ai publié de lui qu'une traduction de Straton de Sardes, donc voilà.
Tu es arrivé à dire ce que tu en penses de ce personnage-là et à percer un peu le mystère ou le secret Mac Jacob.
Alors Mac Jacob,
on peut dire à peu près, il est juif au départ.
Oui.
Juif.
Il se convertit au christianisme. Il part vivre à Saint-Benoît-sur-Loire, près de l'abbaye.
Très longtemps, d'ailleurs.
Oui, oui, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par la Gestapo. Et il est mort à Drancy. Et il a vécu l'homosexualité comme un péché.
Oui.
Il y a quelques poèmes qui sont assez clairs, mais peu. Donc j'ai repris dans l'anthologie. C'est un poète qui a été proche des cubistes, proche de Picasso.
Picasso qui s'est mal comporté à son égard, d'ailleurs.
Oui, quand il y a eu une pétition pour demander que Mac Jacob sorte du camp de Drancy, Picasso a répondu, Max est un ange, il s'envolera tout seul. Mmh. Et il ne s'est pas mouillé. Contrairement à quelqu'un comme Sacha Guitry, qu'on n'attendait pas là, ou Cocteau, qui a beaucoup œuvré.
Le rapport homosexualité-religion, catholicisme, il y a une contradiction évidente.
Oui.
Alors, comment ça se passe ? Parce que Mac Jacob n'est pas le premier, hein ?
Non.
C'est pas le premier. Comment ça se passe, ce cas de conscience ? Est-ce que c'est un péché, ou alors il considère ça comme quelque chose qui est plus fort que, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, quelque chose
j'ai un peu de mal à me mettre dans la tête d'un croyant, ne l'étant pas.
Très dur à comprendre, oui.
Mais il y a un poète qui manque que j'ai découvert après, Conrad Détresse.
Je connaissais, oui.
Lui-même est croyant, catholique, et qui a écrit des poèmes sur l'homosexualité comme étant le péché, ça lui coupe ses chances de salut.
Tu as découvert je crois qu'il y en a dedans, hein, des textes ouvertement homophobes.
Oui, le premier, Eustache Deschamps, contre les efféminés. Il y a des poèmes attribués à Ronsard.
À Ronsard aussi.
Donc
oui.
On ne sait pas s'ils sont de Ronsard, mais je les ai mis aussi pour une raison historique importante.
D'accord. Et des poèmes bi. Attends, écoute bien ce que je veux dire. Des poèmes bi, c'est-à-dire que tu le lis, ça peut être aussi bien écrit pour un homme que pour une femme. Même s'il y a l'usage du cul, c'est pareil. Oui.
J'en ai pas vu ouvertement bi.
D'accord.
Sinon, je les aurais pris.
D'accord.
Oui, oui.
D'accord. Il y a un personnage... Alors, c'est pareil, je ne le connaissais pas. Parce qu'il y a aussi... c'est très drôle. Il y a des choses qui sont très drôles.
Oui.
Laurent Taillat, c'est hilarant.
Oui, 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 oui. Hein?
Là, alors, vie privée et publique du Sidérien, Marquis de Villette. Est-ce que tu connaissais le Marquis de Villette ?
J'avais le livre édité par les éditions Gekitsch-Kemp sur la Révolution.
Alors, le marquis de Villette, 4 décembre 1736 et juillet 1793, fut un écrivain médiocre, voilà, on en a un, mais protégé de Voltaire, dont il fera entrer les cendres au Panthéon, et un député modéré de la Convention. Il fut surtout renommé pour ses frasques homosexuelles qui inspirèrent plusieurs pamphlets, dont Les Enfants de Sodome à l'Assemblée nationale et Vie privée et publique du Sidérière marquis de Villette, tous deux réédités par les éditions Gekitsch. Hein, je vais le lire parce que ça vaut le coup.
Hein. Oui, oui, oui. Voilà.
C'est peut-être pas un chef-d'œuvre.
Non, non.
C'est loin d'être un chef-d'œuvre. Alors, sur l'air de « Je suis natif de Ferrare ».« Je suis natif de Lutèce et grand amateur de la fesse. Pour le con, je n'ai point de jus. Je n'ai de vite que pour l'anus. Loin des putains, dans une allée étendue dessus la feuillée, tandis qu'ailleurs on foule en con, moi j'encule, mon beau mignon. » Il s'est marqué bis, il faut dire deux fois. Sans crainte de la chaude pisse, des poulains et de la jaunisse, quand j'ai besoin de décharger, je me passe bien d'en connaître bis. À l'extrémité de l'épine d'un beau garçon, où je fous ma pine, et me grattant les deux couillons, mon foot sort à gros bouillot. Bis. Bougre en même temps et rivette, le ci-dessous marqué de villette, pour les femmes et pour le con, sans la plus vive aversion bis. Sans être natif de Sodome, à la femme il préfère l'homme, quand il est jeune et neuf surtout, pourquoi pas. Mais chacun son goût. C'est pas du grand, c'est du verre de mirliton, quoi.
Oui, 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 mais c'est intéressant pour la dimension historique, voilà. Mais il n'y a pas de poème de Villette lui-même, homo, j'en ai pas trouvé.
Oh bah, Jean Genet, puis on va récapituler tout ça.
Très bien.
D'accord.
Rocher de granit noir sur le tapis de laine, une main sur sa hanche, écoute le marché. Marche vers le soleil de son corps sans péché et t'allonge tranquille au bord de sa fontaine. Chaque fête du sang délègue un beau garçon pour soutenir l'enfant dans sa première épreuve. Apaise ta frayeur et ton angoisse neuve. Suce mon membre dur comme on suce un glaçon. Mordis tendrement le paf qui bat ta joue. Baise ma queue enflée. Enfonce dans ton cou le paquet de ma bite avalée d'un seul coup. Étrangle-toi d'amour, dégorge et fais ta moue. Adore à deux genoux comme un poteau sacré mon torse tatoué. Adore jusqu'aux larmes mon sexe qui se rompt, te frappe mieux qu'une arme. Adore mon bâton qui va te pénétrer. Il bondit sur tes yeux, il enfile ton âme. Penche un peu la tête et le vois se dresser. L'apercevant si noble et si propre au baiser, tu t'inclines très bas en lui disant « Madame ».
Madame, écoutez-moi, madame, on meurt ici. Le manoir est hanté, la prison vole et tremble. Au secours, nous bougeons, emportez-nous ensemble. Dans votre chambre au ciel, dame de la merci. Appelez le soleil, qu'il vienne et me console. Étranglez tous ces coqs, endormez le bourreau. Le jour sourit mauvais derrière mon carreau.
La prison pour mourir est une fade école.
Bon ben, mais bien sûr que je sais que vous aimez Jean Genet, le condamné à mort, Monique. Oh là 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 là, quelle histoire. Oui ben, Jean Genet est parti. Tiens, on peut faire ça vite fait avant de se quitter.
Alors, ben, Jean Genet a été un temps compagnon de route
oui.
Du Parti communiste, hein, clairement. Il s'est même fait attaquer par... parce qu'il avait fait une déclaration en faveur de l'URSS, donc il s'est fait traiter de stalinien par quelqu'un que je ne nommerai pas, parce que
oui, non.
C'est d'accord. Pas la peine de nommer d'accord. Ce genre de connard. Bon, Genet stalinien, je crois
ça, que... C'est difficile. Ça, c'est difficile.
Comme on dit en Italie, ça fait rire les chats.
Oui, ça c'est difficile, hein, parce qu'il... Oui, oui. Ouais. Donc, on écoutait Genet tous les deux, là.
Oui.
On le connaît par cœur, on redécouvre et c'est magnifique, on ne s'en lasse pas. Hein. Mmh. Et s'il y en a un qui va avec le mot, et c'est toujours nimbé d'une tendresse.
Oui, 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 il y a quelque chose de, je dirais de pur.
De pur.
Voilà. Un désir clair, franc, assuré, assumé, et oui, pur, d'une beauté.
Et pourtant, il est dans le cru.
Oui.
Et c'est pourtant manger beau mousse d'aventure, on peut pas faire mieux au niveau du direct et du cru. Hein.
Non, mais, voilà. Mais ça ne sonne pas, ça sonne pas comme le poème de Taillade.
Et ça échappe entièrement au vulgaire.
Oui, oui, oui. Oui, c'est bien au-delà.
Donc, republié chez Gallimard, et ben, Elio Gabal, on connaissait celui d'Artaud, celui de Genet, c'est quelque chose. Mm-hmm. Hein, voilà. au niveau... Oui, je ne sais même pas pourquoi ça n'a pas été découvert, relu avant, travaillé, mis en scène, j'en sais rien.
Oui.
Hein? Alors, Franck Delorieux, bah, c'est Audition des Temps des Cerises, voilà.
Non, ça a été réédité par les éditions Manifeste.
Manifeste, d'accord. Avec la préface et tout, pareillement,
l'illustre... Non. Et en quatrième de couverture, il y a un extrait de l'article que René Tsekati avait écrit dans Le Monde à l'époque.
On m'a dit, parce que je suis informé, je suis très informé, qu'il y aurait peut-être une revue littéraire chez Manifeste qui va paraître.
Oui, je crée une revue littéraire qui va paraître en janvier. Et nous aurons au sommaire un poète chinois du 11e, un texte de ce très grand écrivain qui est Éric Buillard. Des lettres inédites d'Aragon à Elsa Triolet, plus plein d'autres choses.
J'avais dit à l'époque au camarade Victor Blanc que c'était très intelligent ce titre de manifeste.
Oui.
Parce qu'il est, c'est manifeste, moi je veux dire c'est matérialiste et athée, c'est manifeste, mais en même temps le manifeste ça a une répercussion historique énorme.
Hein. Oui, mais c'est une maison d'édition engagée, hein, où je dirige aussi la collection Lettres françaises, qui était autrefois au temps des cerises et qui est maintenant, et je suis fier particulièrement d'un livre que nous avons édité, c'est la première traduction en vers et intégrale du pèlerinage de Childe Harold de Byron, qui est un poète très cher à mon cœur.
Malheureusement qu'il n'a jamais pu venir sur Radio Libertaire.
Et non.
Et voilà. Et donc, l'amour entre hommes dans la poésie française chez Segers, il faut le lire. Il faut le lire, il y a des choses qu'on connaît, qui sont évidentes, et l'autre beaucoup moins. Et puis, il y a des choses qui sont drôles, il faut le dire.
Oui.
Il faut le dire, vive, on va finir comme ça, vive Laurent Taillade.
Voilà, vive Laurent Taillade.
On dit merci à Monique, c'était un plaisir, voilà, il faut dire merci à Monique.
Merci Franck. Monique.
Voilà, c'est parfait.
Merci Jean.
À bientôt.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner. Moi seul, je vais mourir. Oh, viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
sirotant mon vin, tombé de zénith en nadir. Moi qui me prétends écrivain, eh bien ce soir, j'ai rien à dire. Je jette une pièce à la patronne, et puis j'attrape ma veste en cuir. Un client fait « Bonne nuit, bossonne ». Je réponds rien, j'ai rien à dire. Et je dérive sur les trottoirs, les réverbères ont d'affreux rires. C'est fou ce que la nuit devient noire, putain, quand on n'a rien à dire. Ce n'est pas à coup de silence que l'on se bâtit son empire. Tels sont les mots de ma conscience, elle parle et moi j'ai rien à dire. Comme un violeur prend position, je sors mon stylo pour écrire. Mais on ne viole pas l'inspiration. Non, rien à faire, j'ai rien à dire. Les rues défilent et j'accélère. Je songe à me reconvertir. C'est navrant, mais de quoi j'ai l'air? Moi, l'auteur qui n'a rien à dire. Et j'entends les étoiles qui causent. La poésie doit me maudire. Tant de sujets, de nobles causes. Et moi, moi qui n'ai rien à dire. Je croise des feux, des McDonald's. Cette nuit va-t-elle enfin finir? Et je songe à Scott Fitzgerald. Bordel, pourquoi j'ai rien à dire? Et je cours à travers la ville. Je cours pour m'étourdir. Pour oublier l'état servile de celui qui n'a rien à dire. Oui, je cours à travers la ville. Je cours pour m'engloutir. Qu'elles sont cruelles et qu'elles sont viles, ces nuits où l'on n'a rien à dire. Ces nuits où l'on n'a rien à dire.
Des gorges du hogar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. Tout commence d'abord, tout balayé par le vent sablé, c'est propre et sans papier. Les darbouka clac clac qui clac clac à chaque pas. Des chevauchées folles, des fantasias, SLM et je t'emmène, alléluia. Je suis griot du village, je m'appelle contaminé. Fils du vent, des gorges du hogar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. La de gare du Nord à Saint-Lazare, j'ai tout balayé, c'est propre et sans papier. Les darbouka clac clac qui clac quand je suis chez moi. Les voisins s'affolent du balcon parabole. SLM et on m'emmène, alléluia. On m'a balayé du quartier, c'est propre et sans papier. Fils du vent des portes du Qatar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. Tout commence dans les palais dorés. J'ai tout balayé, c'est propre et sans papier. Les darbouka clac clac qui clac quand le chèque est là. Les chevauchées folles de 4x4 jusqu'à Dubaï. SLM et on m'emmène, alléluia. Faire le griot du village, c'est top, tout est payé. Fils du vent, de Georges et du dollar, de chanter si fort. Ce n'est pas le hasard, tout commence. G.I.'s au chômage, hi hi ho, je cherche du boulot. Mon bazooka tape, tape qui tape, tape sur tous les toits. De Bagdad Pipeline jusqu'aux USA, SLM et on m'emmène, alléluia. Balayer le monde entier, contrôle ethnique, ok. Fils du vent, des gorges du Hogard. Fils du vent, de Georges et du dollar. Fils du vent, des gorges du Hogard. Fils du vent, de Georges et du dollar. Fils du vent, des gorges du Hogard.
Bien. Un pour deux, nous voudrions un café pour deux, nous voudrions une salade pour deux, nous voudrions une glace pour deux. Oh, un pour deux, c'est tellement mieux que dix. Toujours mieux que rien.
pars dans la nuit au fond du puits. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui meurt. Es-tu Claudel, Camille ou Paul? Des voix m'appellent, des voix m'épaulent. Céline, une guerre de trop, regret de Chine. Es-tu Malraux? Es-tu l'auteur de Terre des hommes? Artaud qui meurt, seul sans opium.
Merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de la de-ci et de au mur. La vie, merci la vie, merci la main que j'ai trouvée tendue au fond d'un puits. Merci, merci aussi aux larmes, aux cris, encore merci aux âmes qui crient dans la nuit. Merci surtout du jour où t'es parti. Merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de la de-ci et de au mur. La vie, merci la vie. Merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là de ci et de au mur. La vie, merci l'amour, merci les cris et puis les coups de sang avec ou sans amant pendu. Les bras au cou ou bien perdu, à peau pendu au clou, tant pis, on s'est pas vu, pas pris. Mais c'est la vie, merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là de ci et de au mur. La vie, merci la vie. La vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là de ci et de au mur. La vie, merci les vies que j'ai croisées, que je crois j'ai parfois brisées. Souvent la vie se joue sur un baiser, un coup de dé ou dans le dos, un coup d'épée. Les gens qui pleurs, les gens qui rient, je crois que c'est la vie. Merci aussi les si les sens, s'il était là, je serais passant dessus, dessous, du coup. Déçu parfois de toi, de tout, surtout de tous ces tant pis qui crient sans merci. Mais peut-être que c'est la vie. Merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là, de ci et de au mur la vie. Et puisqu'on est à la merci de tout, puisque j'en suis à dire merci, je crie encore. Merci la vie, même si ma vie n'aura servi, c'est un avis qu'à mon envie de vie. Merci l'amour, merci les cris, merci la main tendue au fond du puits. Merci la vie, aux larmes, aux cris, encore merci, aux âmes qui crient dans la nuit. Merci parce qu'on s'est vu et qu'on s'est pris, et c'est ma vie. Ma vie.
Je pars avec un mauvais point, mes parents n'aiment point. Écoutez, tu me sais, je cours dans le couloir, mes parents n'aiment pas. Regardez, laissez ça. Avec des beaux copulaires, de quoi vais-je avoir l'air dans la cour de récré? Pourvu qu'on m'aime, je pars avec une mauvaise note. Mes parents ne sont pas fans de jazz ni de pop. De moi, je vois bien qu'on se moque. Mes parents ne sont pas fans de chanteurs. Avec des mots populaires, je ne suis pas sûre de plaire à ces garçons branchés que les filles aiment. Car dans cette vie, je vois bien qu'il faut dire comme les autres. Mais moi, de cette vie, j'ai pas envie, j'ai pas envie.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et tous, Nicolas au micro de Trou Noir avec autour de moi Serge, Monique en régie et un autre Nicolas que nous ne tarderons pas à vous présenter de l'autre côté de la table. Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre invité du jour, quelques mots sur les événements désastreux qui sont passés dans la région de Valence, en Espagne, où tout le monde a pu voir les images et les bilans extrêmement désastreux de tout ce qui a été déclenché par cette tempête d'Anna. Ce qu'on voulait signaler, c'est qu'évidemment, il semble bien que, comme souvent, dans les moments de catastrophe, les États soient assez défaillants et que pour une grande part, c'est la solidarité des individus qui s'activent. Dans les nombreuses solidarités qui se mettent en place, il y a notamment celle des syndicats espagnols et donc la CGT qui est un syndicat très important. Je crois que c'est la troisième force syndicale en Espagne, qui est un syndicat qui est issu d'une scission avec la CNT. Et il y a tout un tas d'actions qui sont organisées, de collecte de fonds et de biens pour aider. Alors, je cite un peu en vrac, mais notamment achat de Karcher, sans doute pour nettoyer les rues, les appartements et tout ce qui s'ensuit. Mise à disposition de bicyclettes pour aider un peu au déplacement, puisque, on l'a vu, les voitures ne marchent plus très bien. Donc, aide au nettoyage, don aussi, par exemple, de sacs à dos, pour pouvoir déplacer un peu ces petites affaires. Donc voilà, si on veut contribuer à ça, la CGT reçoit des dons. On peut trouver toutes les coordonnées nécessaires sur le site du Monde Libertaire. Et donc, il y a un article en ligne qui parle de solidarité avec Valencia et dans lesquels on peut trouver les coordonnées bancaires de cette organisation. Voilà, c'était donc pour dire que la solidarité et l'entraide ne sont pas que des vains mots, et souvent ils prennent tout leur sens pendant les catastrophes, car l'histoire nous rappelle que bien souvent que les États sont défaillants, voire absents à l'occasion de ces grandes catastrophes. On se souvient notamment de Katrina à la Nouvelle-Orléans, qui avait été tout à fait désastreuse aussi, et puis il y a bien d'autres exemple de ce genre-là. Donc voilà, pour aider un peu et se renseigner sur ce qui se fait, vous pouvez aller sur le site du Monde Libertaire pour en savoir plus sur Solidarité avec Valencia en Espagne. Voilà, une petite pause musicale et puis ensuite nous reprenons le cours de l'émission qui va démarrer.
Petite boîte, petite boîte, petite boîte, faites en tiki-taki, petite boîte. Petite boîte, petite boîte, toute pareille. Il y a des rouges, des violettes et des vertes très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki-taki. Elles sont toutes, toutes pareilles. Et ces gens-là dans nos boîtes